Vous êtes sur RTL.
18h. Et c'est l'heure de s'informer avec RTL Soir et vous, Thomas Sodo.
Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir. On va passer 2 heures ensemble jusqu'à 20h. Et parmi les sujets de l'actualité du jour, il y a cette polémique qui monte autour de Lilian Thuram. Interrogé en Italie sur le racisme dans les stades, il a dit « Il faut avoir le courage de dire que les Blancs pensent être supérieurs ». Voilà ce qu'a déclaré l'ancien champion du monde, Lilian Thuram, qui a choisi RTL Soir pour s'expliquer. Il sera donc avec nous en direct tout à l'heure à 18h35. Les autres grands titre de l'actualité, c'est avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. 228 morts, mais pas de coupables, pas de responsables. 10 ans après le crash du vol Rio-Paris, c'est le non-lieu général pour Airbus comme pour Air France. Les familles sont furieuses. Témoignages et explications dès le début de ce journal. Un viol, mais pas de procès aux assises. Pour la première fois à Caen, on expérimente la cour criminelle qui juge des crimes sans jury populaire, uniquement avec des magistrats professionnels.
Et on en parlera à 18h15 avec un des ténors du barreau, l'avocat pénaliste Franck Berton, à qui vous pouvez poser vos questions dès à présent en nous appelant au 3210.
Les embrouilles volent en escadrille pour Boris Johnson. Après son revers hier au Parlement, voilà que son propre frère Joe Johnson quitte le gouvernement. Et puis victoire pour Maurice, le coq de l'île d'Oléron est autorisé à chanter, n'en déplaise aux voisins ronchons. La Bourse de Paris elle clôture ce soir de nouveau en nette hausse d'1,11% à 5593 points.
La météo avec Louis Baudin. Bonsoir mon cher Louis.
Bonsoir Thomas, bonsoir.
Quand
à tous.
Baudin revient, le soleil revient aussi.
Ah ben oui, j'essaie hein, quand même d'avoir une petite influence. Non, c'est pas vrai du tout. Hein. J'essaie juste de prévoir. Et effectivement, demain, il devrait y avoir un petit peu plus de soleil dans la plupart des régions. Quelques nuages quand même près de la Manche. Et puis surtout un peu plus de nuages sur les Alpes, la Côte d'Azur ou encore la Corse. Avec là, un petit risque d'averse. Il restera également du Mistral et de la Tramontane autour du Golfe du Lion et dans la vallée du Rhône. Là, l'avantage, c'est que le ciel sera totalement dégagé. Puis côté température, attention demain matin, peut-être les premières gelées blanches. Donc il fera froid.
Ah, carrément.
Ah oui, carrément. Et puis l'après-midi, on sera entre 19 et 23 degrés dans la moitié nord, un peu comme aujourd'hui. Donc c'est un peu juste pour la saison. 21 à 24 dans le sud-ouest et encore 25 à 28 près de la Méditerranée.
Voilà, mettez ça dans un coin de votre tête, on se couvre bien et on couvre les enfants demain matin. Merci Louis.
Thomas Soto, RTL Soir.
228 morts, mais pas de procès. 10 ans après le crash du vol Rio-Paris, la justice vient de prononcer un non-lieu général pour Airbus, mais aussi pour Air France. Les juges n'ont pas suivi les réquisitions du parquet qui avait réclamé un procès pour la compagnie aérienne. Cette décision provoque l'indignation des familles. Écoutez Robert Soulas, il a perdu sa fille et son gendre dans l'accident.
C'est une décision scandaleuse et unique. Il y a eu plus de 10 ans d'investigation judiciaire. Il y a 228 personnes qui ont disparu, qui sont mortes. Elles se sont évaporées comme ça, comme ma fille. Donc on n'a pas retrouvé son corps. Et tout ceci, il n'y a aucune responsabilité associée à ces 228 victimes. C'est vraiment pas normal. C'est une insulte à leur mémoire. On peut pas passer un coup de gomme comme ça sur la perte d'un avion et de 228 personnes, c'est pas possible. Il faut absolument mettre des responsabilités en face. Et comme la vérité ne peut être que judiciaire, il faut absolument qu'il y ait un procès.
Bonsoir Sinamir.
Bonsoir.
Alors on entend la détresse de ce père privé de sa fille. Pourquoi cette décision de non-lieu?
Eh bien car pour les deux juges d'instruction qui l'écrivent noir sur blanc dans leur ordonnance de 189 pages, cet accident s'explique par un enchaînement d'événements qui ne s'étaient jamais produits. L'erreur de l'équipage décédé est donc la seule retenue dans ce crash, contre l'avis du parquet qui demandait le renvoi d'Air France en correctionnel, contre celui des familles des 228 victimes, tous attestés d'un manque d'informations données aux pilotes de la compagnie à l'époque en cas de givrage des sondes pitot, celles qui sont en cause et mesurent la pression autour d'un appareil. Les familles de victimes comptent donc déjà faire appel de ce non-lieu. Le procureur de la République a lui 10 jours pour le faire.
Merci. Explication RTL signée Sinamir.
Une audience historique. Ça s'est passé ce matin à Caen où un crime a été jugé mais sans jury populaire.
Le jury populaire qui est la particularité des cours d'assises, mais désormais il y a la cour criminelle, une nouvelle juridiction chargée des crimes passibles de 20 ans de prison maximum. Première expérimentation donc à la cour d'appel de Caen avec une affaire de viol. Cindy Hubert, vous êtes sur place pour RTL, vous qui êtes une habituée des assises, qu'est-ce que ça change ?
Eh bien, au jeu des différences, ce qui frappe, c'est d'abord ces chaises vides à côté des magistrats. Le procès s'est tenu entre professionnels. Exit tout le cérémonium qui entoure les jurés, le tirage au sort. Ses mains tremblantes au moment de dire « je le jure ». Pas besoin non plus de redoubler de pédagogie pour expliquer telle expertise ou tel témoignage. Et de toute façon, personne n'est venu à la barre. Tout a été lu, en dehors bien sûr des questions à l'accusé. Car les magistrats ont le dossier sous les yeux. C'est une autre différence avec les assises et l'ont emporté avec eux dans la salle du délibéré. Cela donne donc un procès express, un peu moins de 5 heures de débat. Mais l'avocate de la défense, Maître Le Chevrel, en sort tout de même rassurée.
J'ai vraiment le sentiment que tous les aspects du dossier ont été vus, envisagés et envisagés sérieusement.
Et il faut dire que le procès que nous venons de vivre était très particulier. La victime est décédée dans un accident des années plus tard. Il n'y avait donc aucune partie civile. Le vrai test pour cette toute nouvelle cour criminelle se fera donc sans doute sur les prochaines affaires à venir. Dès demain, un père sera jugé pour avoir violé sa fille pendant de longues années.
Voilà, et vos questions sur ce nouveau tribunal, en quelque sorte, c'est au 32-10 pour Franck Berton dans quelques minutes.
Au Royaume-Uni, Boris Johnson s'enfonce chaque jour un peu plus. Le Premier ministre a pris une bonne claque hier au Parlement, même une bonne paire de claques, puisque les députés ont voté un report du Brexit et en même temps, ils ont rejeté la tenue de nouvelles élections à la mi-octobre. Aujourd'hui, nouveau coup dur, son propre frère, secrétaire d'État à la recherche, quitte le gouvernement, Marie Billon.
Ah oui, défaite au travail et claque à la maison. Joe Johnson a annoncé sa démission sur Twitter ce matin. J'étais déchiré entre loyauté familiale et intérêt national. Le message est clair, son grand frère fait du mal au pays. Selon le tabloïd The Sun, le Premier ministre aurait supplié hier soir son cadet de ne pas démissionner. Ça aurait donc été sa troisième défaite de la journée après celle à la Chambre des communes. Boris Johnson ne retrouvera donc plus son frère autour de la table du Conseil des ministres. Par contre, les dîners de famille pourraient être un peu plus tendu, même si leur sœur, Rachel Johnson, éditorialiste pro-européenne, a précisé « Lors des repas, on évite de parler du Brexit parce qu'on ne veut pas se liguer contre le Premier ministre. » Ah oui, le père, Stanley Johnson, ancien diplomate, lui aussi est dans le camp des europhiles. Évidemment, cette défaite mi-pro, mi-perso fait le bonheur des critiques de Boris Johnson. Si même son frère ne le soutient pas, pourquoi le pays le devrait-il ? Et d'autres ironisent sur le fait que, normalement, quand on démissionne, c'est pour passer plus de temps avec sa famille, pas pour l'éviter.
Marie Billon à Londres pour RTL, c'est tout à fait juste.
L'ouragan Dorian, on a quelques nouvelles, il est de nouveau repassé en catégorie 2. Il se rapproche désormais de la côte est des États-Unis avec des vents qui soufflent quand même jusqu'à 175 km/h. La Caroline du Sud devrait être touchée dans les prochaines heures. On revient en France, Isabelle, avec Cédric Villani qui est donc désormais officiellement candidat à la mairie de Paris.
Un candidat dissident, mais pas isolé, Thomas. Le député mathématicien s'est déclaré hier soir. C'est une sacrée épine dans le pied de La République En Marche, mais pas question de l'exclure. Alors Villani, on l'a souvent décrit comme un savant un peu lunaire. Sa candidature pouvait paraître baroque, mais en fait, Vincent Derosier, ce n'est pas du tout le coup d'éclat d'un homme seul.
Non, il a une équipe de campagne déjà parfaitement opérationnelle. Preuve, s'il en fallait, que Cédric Villani prépare son coup depuis longtemps. Déjà, il y a des députés En Marche qu'il soutiennent officiellement. Alors, ils ne sont qu'une petite dizaine aujourd'hui. Ce ne sont pas des célébrités non plus. Je peux vous en citer trois. Anne-Christine Lang, Paola Fortezza et Mathieu Orphelin, proche de Nicolas Hulot, qui a la lourde tâche de superviser le projet écolo du candidat.
Moi, j'ai aucun doute sur la sincérité, évidemment, de Cédric Villani. Je l'ai vu, je l'ai éprouvé à l'Assemblée nationale. On a porté beaucoup de choses ensemble sur ces thématiques-là. Je serais ravi d'être non pas le monsieur écologie, mais l'une des personnes qui vont l'aider à faire que ce soit un super projet pour Paris.
Le mathématicien peut aussi compter sur des hommes de l'ombre, des spécialistes qui plongent sur différentes thématiques depuis des mois. Il y a le député Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID, qui a été consulté sur le programme sécurité du candidat. Il y a aussi pas mal d'anciens socialistes, beaucoup de jeunes qu'il a rencontrés en circonscription dans l'Essonne. Son directeur de campagne, par exemple. Son directeur de la communication a lui fondé la page Facebook d'Anne Hidalgo. Et Cédric Villani vient de trouver son QG sur l'île de la Cité dans le 4e arrondissement. À deux pas de l'hôtel de ville, tout un symbole.
Merci. Vincent Derosier du service politique d'RTL. Coup d'envoi pour l'acte 2 des consultations sur la réforme des retraites. Depuis ce matin, les partenaires sociaux sont reçus à Matignon. Et puis, grosse incertitude chez Aigle Azur. La deuxième compagnie aérienne française est en redressement judiciaire et depuis ce matin, elle a suspendu ses liaisons vers le Mali, le Brésil et le Portugal.
Dans un instant, on en vient à la polémique Lilian Thuram, le champion du monde de foot, accusé de racisme anti-blanc, entre guillemets. À tout de suite.
Il est 18h09. Thomas Soto, RTL Soir. Septembre. RTL Soir, il est 18h10. On vous retrouve Thomas Soto avec Isabelle Choquet pour la suite du journal.
On le connaît comme le porte-drapeau de l'antiracisme. Aujourd'hui, Lilian Thuram est lui-même accusé de racisme anti-blanc, entre guillemets. Alors forcément, c'est troublant.
En cause, une interview publiée hier dans le quotidien italien Corriere dello Sport. L'ancien champion du monde 98 revient sur un incident raciste. Des supporters italiens poussant des cris de singe lors d'un pénalty de Lukaku, l'attaquant de l'Inter de Milan. Et là, ça dérape, Christian Olivier.
Une phrase claque, choque, déclenche la polémique, je cite. cite, « Il est nécessaire d'avoir le courage de dire que les Blancs pensent être supérieurs et qu'ils croient l'être. Les Noirs ne traiteront jamais les Blancs de cette façon et pour n'importe quelle raison, l'histoire le dit. » Fin de citation. Une affaire de sémantique pour les uns. Pourquoi ne pas avoir dit « des Blancs » sous-entendu « certains Blancs » car les Blancs sous-entendraient que ce sont tous les Blancs sans exception. Ou pour les autres, n'y aurait-il pas une part de racisme dans les propos et la pensée du champion du monde 98. Le débat fait rage sur les réseaux sociaux. Interview donnée consécutivement au cri raciste dont a été victime le week-end dernier l'attaquant de l'Inter Milan. Lilian Thuram demande aux Italiens de s'inspirer de la France en cas d'homophobie en France. Stopper la rencontre et pourquoi pas renvoyer les joueurs au vestiaire. Il parle d'éducation, de prise de conscience. La nuit dernière, il me disait ne vouloir blesser personne et réclamer de la bienveillance. Il vous dira ce soir s'il s'est laissé entraîner dans une dérive du combat antiraciste, comme vient de l'affirmer la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Voilà,
c'est évidemment un sujet inflammable. Lilian Thuram a envie de s'expliquer et il a accepté l'invitation d'RTL Soir. Il sera donc en direct avec nous d'ici une vingtaine de minutes maintenant.
BFM TV devrait revenir sur les box d'Orange dans les heures qui viennent. Depuis ce matin, c'est écran noir. Orange ne veut pas payer pour diffuser la chaîne, mais un accord est en cours de négociation. Des mesures pour lutter contre les décharges sauvages. La secrétaire d'État, Brune Poirson, annonce la gratuité des dépôts en déchetterie. Actuellement, les artisans du BTP paient 90 euros du mètre cube. La bonne histoire du jour, elle nous vient du Pérou, où décidément les trafiquants de drogue ne manquent pas d'imagination. La police vient de démanteler un réseau qui utilisait des plongeurs. Leur mission, souder des containers rempli de drogue sur les coques des bateaux sous l'eau. Un vrai scénario de film, Eric Solo.
En juin dernier, la police équatorienne a été surprise de trouver un homme nageant contre le courant dans les eaux boueuses du fleuve Guayas. En tenue de plongée, il n'était qu'à quelques dizaines de mètres d'un cargo ancré dans le port de Guayaquil en partance vers l'Espagne. Pensant d'abord que l'homme était tombé à l'eau après un accident, les agents ont vite compris que l'Équateur était une nouvelle victime de ce que l'on appelle en Colombie le parasitage, c'est-à-dire le fait de souder des conteneurs en acier remplis de drogue sur la coque des navires. À Guayaquil, le trafiquant sorti des eaux tirait en effet derrière lui des caisses remplies de quelque 138 kilos de cocaïne. Au Pérou, c'est à Pisco et Chimbote que la police vient d'arrêter 12 trafiquants qui soudaient jusqu'à 600 kilos de drogue par navire dans les conduits de ventilation de la coque. 12 personnes ont été arrêtées, dont 2 officiers de la marine péruvienne. Cette technique permet d'éviter les contrôles portuaires puisque la drogue n'est plus à bord mais à l'extérieur du navire. Très souvent, l'équipage n'est pas au courant et se transforme en complice involontaire des trafiquants qui, autre avantage, n'ont plus à payer de pot de vin.
Éric Solo au Pérou pour RTL. Et pour terminer, un cocorico. Et pour une fois, ce n'est pas une image. Sachez que le coq Maurice pourra continuer à chanter sur l'île d'Oléron. La justice a rejeté la plainte des voisins qui râlaient parce qu'ils étaient réveillés à l'aube. Grande
Qu'est-ce
victoire.
Qu'est-ce que c'est, rabat-joie ?
Eh bien oui, mais oui, mais c'est une énorme émotion et une grande victoire pour la propriétaire Corinne Fesseau.
Je suis émue, je suis contente. On a fait un beau combat.
Le coq Maurice, il va pouvoir rechanter. Il va rester à la maison et il faut que dans toutes les campagnes, les bruits redeviennent normaux, que les gens qui viennent en vacances tolèrent le bruit à la campagne.
Alors, et on a en exclusivité la première réaction de Maurice. C'était facile, mais ça fait toujours
mais ça fait
plaisir.
Toujours
Merci beaucoup Isabelle.
À tout à l'heure.
RTL Soir, il est 18h14. Dans un instant, le premier invité de RTL Soir va répondre à vos questions, Thomas Soto.
Les nouvelles cours criminelles où les jurys populaires n'ont plus leur place, on en parlait, sont-elles un progrès ou une concession faite à une justice expéditive, à une justice à l'économie? Dans un instant, c'est donc un grand avocat pénaliste, maître Franck Berton, qui vient nous dire ce qu'il pense de cette réforme. Et pour lui poser vos questions, ça se passe au 3210.
Thomas Soto, RTL Soir. Soir.